Bonsoir. Plus d'une année après la promulgation de la loi sur la mise en place de la Commission nationale des droits de l'homme, cette structure peine toujours à se mettre en place à cause des contestations entre différents membres de la société civile. Quelle lecture faire de cette situation et que faire pour la décompter? C'est le thème de Dialogue entre Congolais de ce lundi 10 novembre 2014. Pour en parler, je reçois dans cette émission Madame Annie Bambé. Elle est membre du comité d'accompagnement pour la thématique ONGDH. Elle est aussi présidente du Forum des jeunes pour le droit des jeunes et enfants. Madame Annie Bambé, bonsoir. La réalisation, monsieur. Madame Annie Bambé, vous êtes en ligne?
Oui, Madame Céline, je suis en ligne.
Est-ce que vous pouvez éteindre la radio à côté de vous?
Merci, c'est fait.
Merci. Et Maître José Zoubi, coordonnateur de la plateforme Festival Verso du handicap, il est membre de l'ONGDH Parousia qui s'occupe des personnes vivant avec handicap. Maître José, bonsoir.
Bonsoir, Céline. Bonsoir à tous.
Et le professeur Emmanuel Kabongo, analyste et professeur en philosophie politique de l'Université pédagogique nationale. Professeur, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Merci parce que vous êtes nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Peter Kabongo depuis Kinshasa. La société civile du Congo est tellement politisée qu'il est difficile aujourd'hui pour ses membres de trouver un compromis. Mazambi Kakutu dit ceci, il sera difficile pour eux de s'entendre car à ce jour, on ne sait pas quelle est la vraie société civile. Merci de nous suivre, partenaire des sur la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiokapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiokapi.net.
La mise en place de la Commission nationale de droits de l'homme, CNDH, n'est toujours pas effective. À la base, la contestation de certains candidats, membres de la société civile et candidats aux fonctions des membres de la Commission nationale de droits de l'homme, qui estiment que leurs noms ont été injustement omis de la liste de cette commission. Ces candidats lésés accusent les membres du comité d'accompagnement de la CNDH de clientélisme et exigent sa dissolution. De son côté, le comité d'accompagnement s'est réjoui de la transparence qui a entouré ce processus entamé par le bureau de l'Assemblée nationale. Berry Luchaka pour les détails.
La loi portant création de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, a été promulguée au mois de mars 2013. C'est dans cette loi que le rôle même de la société civile a été précisé, spécialement en ses articles 14 et 16. Dans l'article 14, on parle des forces sociales engagées dans la promotion et la protection des droits de l'homme comme animateurs de cette structure. C'est le cas des ONG, des syndicats, personnes vivant avec handicap, etc. À son article 16, la même loi précise que les membres de la CNDH sont choisis par l'Assemblée nationale sur une liste de 2 personnalités par groupe, dont une femme. Et c'est à ces niveaux que les frustrations sont nées. Certains candidats affirment avoir été omis injustement de la liste des préposés à cette institution, alors qu'ils ont été désignés par leurs composantes. Parmi les mécontents, il y a Alexis Kanyenye Biumanine de la composante société civile qui a exprimé son indignation.
C'est le clientélisme que nous ne voulons pas. Imaginez-vous, nous sommes devant une institution nationale des droits de l'homme, où vous demandez que les animateurs travaillent dans la transparence, dans la crédibilité et dans les plus de concertations possibles. Et donc, pour constituer ce genre de liste, il faut le plus de transparence possible. Et c'est comme ça que nous sommes organisés en groupe pour venir déposer nos propositions.
De son côté, le comité de suivi pour la désignation des membres de la CNDH se félicite non seulement du sens élevé de responsabilité qui anime les membres de différentes structures de la société civile dans l'élaboration de leur liste, mais aussi de la dextérité du bureau de l'Assemblée nationale dans la confection de la liste provisoire publiée le 30 octobre dernier. Maître Lumumbaya se réjouit de la transparence qui a entouré ce processus entamé par le bureau de l'Assemblée nationale.
Nous avons confiance par rapport à la transparence dont a fait montre le bureau de l'Assemblée nationale. Nous pensons que les choses iraient beaucoup plus vite et au mieux.
Cependant, la population congolaise attend beaucoup de cette structure qui doit contribuer énormément à promouvoir les droits humains en RDC.
Merci Berry Franklin Luchaka, maître José Zoubi. Je rappelle que vous êtes coordonnateur de la plateforme Festival Verso du Handicap. Vous êtes membre de l'ONGDH Parousia qui s'occupe des personnes vivant avec un handicap. Vous faites partie de ces personnes qui demandent la dissolution du comité d'accompagnement. Pourquoi?
Merci Kelly. Je dois d'abord remercier la Radio Capi pour l'opportunité que vous nous accordez aujourd'hui de nous adresser à vos millions d'auditeurs. Nous nous réjouissons également puisque je crois que tout au long de cette émission, comme nous l'avons démontré tout à l'heure, nous parviendrons au moins à faire comprendre à toute la population ce qui s'est passé réellement dans les choix de ce qu'on a présenté dernièrement. Puisque si nous n'y prenons garde, on risque tout simplement d'induire les présidents de l'Assemblée nationale en erreur, et ça c'est très lamentable pour le choix des animateurs qui devront conduire la CNDH. Et je dois dire que j'interviens ici non seulement comme coordonnateur de la plateforme Fevera et membre de l'ONG de Parousia, mais je veux également dire que je suis l'une des personnes qui avait été élue, j'insiste bien, élue par les composantes, par les structures qui constituent la composante PVH, et sur notre liste, nous étions à deux, dont une femme et un homme. Et parmi les hommes, donc l'homme qui avait été élu, c'est moi, donc maître José Zoubi. C'est à ce titre-là que j'ai participé. Pourquoi nous contestons la mise en place ou le fonctionnement
du comité d'accompagnement?
Moi, franchement, ça m'étonne d'abord qu'on ait maintenant parlé, j'entends là-bas que maître Loum, que je connais très bien, je connais la probité morale de ces messieurs, c'est un confrère avec qui nous a traité de très bonnes relations. Ça m'étonne qu'aujourd'hui qu'on les présente comme étant les coordonnateurs de ces comités d'accompagnement, puisque moi, depuis que j'avais commencé à suivre ces processus, j'avais cru entendre, puisque tout avait commencé à une réunion qui avait eu lieu au centre Carter, et à cette époque-là, on nous avait présenté un comité d'accompagnement, et les jours du choix qui a sanctionné les candidats devant figurer sur la liste des PVH, cette structure-là, le comité d'accompagnement, était représenté par deux candidats qui sont venus comme des témoins. Je cite, puisque j'ai l'autorisation de citer son nom, il m'a donné l'autorisation de citer son nom, c'était maître Henri Wembolia. Et il y a un deuxième également qui est avocat également, je ne voudrais pas citer son nom puisque je ne lui ai pas demandé son autorisation, mais je cite les noms de maître Henri Wembolia qui est venu pour le compte du comité d'accompagnement qui avait été mis en place à cette époque-là. Et tout s'est passé dans la transparence quant à ce qui concerne le choix de nos membres
amis. Il est venu représenter le comité, mais il n'est pas coordonnateur. Il y a sûrement un coordonnateur à la tête de ce comité d'accompagnement.
S'ils sont venus ces jours-là, puisqu'ils avaient été élus. Et si vous permettez que je puisse vous retracer rapidement la genèse, la façon dont les choses sont passées pour les choix de nos candidats.
Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Dites-nous l'essentiel.
Brièvement, je dois dire que pour les personnes vivant avec handicap, tout est parti du fait que nous-mêmes, personnes avec handicap, connaissant les guerres, les luttes intestines qui minent nos petites associations, nous, les personnes avec handicap, nous nous sommes adressés au ministère des tutelles pour qu'ils puissent nous aider à nous mettre ensemble afin que nous puissions procéder au choix de nos candidats à nous.
Ce qui a été fait.
Ce qui a été fait. Le ministère des tutelles nous a mis ensemble en choisissant les structures des personnes vivant avec handicap qui ont pignon sur rue. Et je dois vous dire que toutes les structures des personnes avec handicap qui ont pignon sur rue, notamment les aveugles, les sourds, les enfants SS, les paraplégiques, les handicapés moteurs, tout le monde, nous sommes retrouvés à cette assemblée-là. Et cette réunion-là avait été dirigée par le ministère des tutelles en présence de ces deux délégués-là du comité d'accompagnement pour la mise en place de la CNDH. Et la liste et le PV qui avait sanctionné le choix des deux candidats avaient été transmis officiellement par le ministère des Affaires sociales et Affaires humanitaires au président Obeminako, c'était depuis le 26 décembre 2013.
Et aujourd'hui, vous êtes surpris de constater que ces noms-là les figurent
tout à fait sur la liste. De constater que parmi les deux personnes qui avaient été élues, on ne parle des personnes, on ne choisit personne, on retient personne de nous deux, et on présente personnes qui sont tombées comme ça, on ne sait où, on ne sait par quelle magie, et nous savons tout simplement que ces personnes ont été recommandées par des individualités. Alors là, nous commençons à nous poser la question, quelle est la crédibilité priorité qu'on va accorder à une structure comme celle-là. Non, à droite, là, ça commence à nous inquiéter déjà. Et c'est comme ça que nous disons que les comités d'accompagnement.
C'est comme ça que vous l'accusez de clientélisme.
Ah, bien sûr que oui, non, c'est pas de clientélisme, mais de favoritisme et même de certains dérapages qui risquent déjà de compromettre le bon fonctionnement de cette structure.
Est-ce que vous avez essayé d'entrer en contact avec ce comité d'accompagnement pour essayer de comprendre pourquoi les deux noms présentés par les handicapés n'ont pas été retenus?
Moi, à l'époque, nous avons été, puisque à l'époque, quand le président Obey Minaku avait d'abord réuni pour la première fois toutes les structures de la société civile, nous étions là. Nous avons été voir même les conseillers chargés des affaires parlementaires du président Obey Minaku, un certain M. Crispin, à qui nous avions présenté toutes nos déléances. Au mois de décembre, au mois de juin passé, les personnes avec handicap sentant déjà toutes ces manipulations qui s'ourdissaient même dans certaines officines pour tout simplement changer et essayer de mettre des côté le choix des personnes avec handicap pour désigner des personnes qui sortaient dans ces zoos, nous avions fait une déclaration. Les personnes avec handicap avaient fait une déclaration et nous avions également été déposé notre mémo au président Obey Minaku jusqu'à la présidence et à la primature. Toutes les autorités sont bien saisies de cette question, mais nous ne comprenons pas alors qu'aujourd'hui, ces comités-là cherchaient à induire les présidents Obey Minaku en erreur à présenter des personnes qui n'ont pas été élues, malheureusement, puisqu'on ne peut pas nous dire, je ne sais pas si Mme Annie Evam, que je connais également personnellement, pourra nous présenter le PV qui avait sanctionné le choix de ces personnes qu'eux, ils ont présentées.
Merci, Maître José. Madame Annie Bambé, vous êtes présidente du Forum des jeunes pour les droits des jeunes et enfants. Vous êtes également membre du comité d'accompagnement pour la thématique ONGDH. Comment vous répondez ou vous réagissez face à toutes ces accusations, ces comités de clientélisme? On demande même la dissolution de ce comité d'accompagnement.
Merci beaucoup, Madame Kelly. Je voudrais, avant de commencer, préciser une chose. Par rapport au comité de suivi, dont Maître Lumu est coordonnateur, ça c'est le comité de suivi de stratégie nationale de protection des défenseurs des droits de l'homme, qui est un mécanisme de protection des défenseurs des droits de l'homme instauré par les organisations des droits de l'homme et les partenaires et les défenseurs des droits de l'homme à l'issue de la conférence sur la situation des droits de l'homme qui s'est tenue à Invest le 30 au 31 octobre 2013. C'est à l'issue de cette rencontre qu'il y a eu ces comités de suivi que pilote Maître Sylvain Lumu. En même temps, Maître Sylvain est membre du comité d'accompagnement pour la mise en place de la Commission nationale des droits de l'homme, dans laquelle je fais aussi partie.
Ça fait trop de structures quand même.
Il y a une différence. Alors, pour répondre aux allégations de José tout à l'heure, que je salue, que je connais bien, le travail du comité d'accompagnement de la CNDH installé à la société civile était justement de mettre en place, de concilier les vues, de suivre le processus avant même que l'Assemblée nationale ne s'épanche. Parce que la responsabilité est partagée entre la société civile et l'Assemblée nationale pour la désignation des membres de la Commission nationale des droits de l'homme. En amont, la société civile s'organise en thématique et présente ses candidatures par rapport aux thématiques en dehors de confessions religieuses qui doivent déposer 4, les autres thématiques présentent 2-2 en tenant compte du genre. Et au finish, l'Assemblée nationale ayant recueilli toutes ces candidatures va en sortir 9. En ce qui concerne la thématique personnes vivant avec handicap que j'ai suivie depuis que je suis dans ce comité, il y a un comité de pilotage ou comité d'accompagnement qui est dirigé par M. Tamboué. Il y a Tamboué, il y a Mme Berline et il y a Jean-Richard Chibanda. Je ne sais pas si M. José est en contact avec ces trois membres qui pilotent leur thématique en tant que comité de pilotage. Alors, s'il est en contact, je crois que les questions qu'il pose au studio ces jours trouveront des réponses.
Mais est-ce que vous ne pouvez pas répondre à ces préoccupations? Puisque la question est quand même posée. Il y a deux candidats qu'on avait désignés pour les personnes vivant avec handicap. Aujourd'hui, les noms de ces deux personnes ne se retrouvent pas sur cette liste, mais c'est d'autres personnes qui sont sur la liste. Comment expliquer cela?
Bon, en tant que membre du comité interthématique qui est dirigé par le révérend Monseigneur Milengue, au mois de mai, c'était le 10 mai 2013, nous nous sommes réunis au centre Carter sous le chapeau du comité d'accompagnement de la société civile avant même que l'Assemblée nationale ne s'épanche sur l'affaire après la promulgation de la loi. Et à cette époque-là, justement, il y a des thématiques qui ont été mises en place sous le leadership de ce comité d'accompagnement. Et c'est à cette époque-là que José et une autre candidate se sont organisées pour se faire élire. Mais lorsque nous sommes arrivés le 20 décembre 2013, le président de l'Assemblée nationale a convoqué toutes les personnes impliquées, concernées par la question de la mise en place de la Commission nationale des droits de l'homme. Et ce jour-là, il nous a dit que c'est à ce moment-là que le processus, le vrai processus commençait avec l'implication de l'Assemblée nationale. Et il nous a renvoyé d'aller nous organiser en 8 thématiques. Quand bien même, au niveau du comité d'accompagnement, on était déjà organisé. Le 20 décembre, il y a eu d'autres personnes qui n'étaient pas dans le processus, qui se sont improvisées dans la salle et qui ont remis en question certaines thématiques. C'est ce qui a fait que les thématiques ont été restructurées. Donc, la composition de thématiques des jurés a subi aussi cette influence.
Mais est-ce que ces candidats-là étaient informés?
Ils étaient tous informés parce que José, on a toujours évolué ensemble. Il venait au comité interthématique avec Monseigneur Milengue. Donc, toutes ces questions, il était au courant. Je ne vois pas qu'il peut me contredire sur ce point-là.
Et toutes ces élections qui se sont déroulées avant cette date-là sont tombées caduques, quoi.
Voilà, c'est-à-dire, ils se sont restructurés. Même nous-mêmes, moi, au niveau de la thématique ONGDH, nous étions au départ à 4. Et actuellement, avec l'implication de l'Assemblée nationale, nous sommes arrivés à 6. Il y a même 2 autres qui ont, parmi les 4 de départ, 2 sont tombés et on nous a récupérés à 2 et on a ajouté 4 autres. Ce qui a fait que nous sommes arrivés à 6. Donc c'est une restructuration qui s'est faite dans presque toutes les thématiques.
Merci Madame Annie Bambé. Je vais vous donner la parole, Maître José Zoubi, professeur Daniel Kabongo, analyste et professeur en philosophie politique de l'Université pédagogique nationale UPEN. Comment vous analysez ou quelle lecture vous faites de cette situation?
Merci beaucoup Madame. Je voudrais d'abord dire que une commission nationale des droits de l'homme pour notre pays est une institution d'une importance capitale parce que notre pays connaît depuis un certain temps depuis plus de temps qu'il en faut, en fait, des violations massives des droits de l'homme, des violations criminelles, cruelles, des droits de l'homme, les femmes y passent, les enfants. Donc, nous connaissons une panoplie de souffrances qui fait que, pour nous, avoir une commission des droits de l'homme est d'une importance plus que vitale. Alors, nous tous, je crois que nous devons soutenir la mise en place de cette commission et il doit fonctionner. Ce qui m'inquiète, et je crois que mon inquiétude, et c'est pour cela que chaque fois que j'interviens dans ce genre de débat, je ne me considère pas comme un professeur, mais je me considère comme un militant, un Congolais, une élite qui est engagée dans le développement de son pays et qui s'intéresse à toutes les problématiques qui se posent dans notre pays. Et je suis toujours inquiet, et je me pose toujours des questions, je me dis, à quel niveau, quand est-ce que les Congolais pourront s'entendre, montrer au monde qu'ils constituent, que les Congolais constituent réellement un peuple, c'est-à-dire des gens qui partagent une unité psychique, une unité psychologique, une unité politique, une unité de consensus sociétaux, à base desquels nous pouvons avancer ensemble. Parce que cette problématique de contestation circule dans chez nous, qu'on ait vu ici ce qu'on a appelé le gouvernement d'union nationale qui n'est jamais sorti, qu'on ait pensé ici à la mise en place de d'une constitution, enfin, d'un on appelait le président, les représentants de l'opposition au niveau de...
Le porte-parole de l'opposition.
Le porte-parole de l'opposition, il y a eu des contestations. Et à tous les niveaux, et parfois, je dis, nous ne sommes pas encore arrivés à un niveau où les Congolais peuvent être appelés peuple. Nous ne sommes qu'une petite population de 80 millions d'individus, où chacun a des petits intérêts, mais nous ne sommes pas encore arrivés à construire un véritable consensus national à base duquel nous pouvons aller de l'avant. Donc c'est ainsi que je suis surpris parce que la Commission nationale, elle est constitutionnelle, et nous nous disons c'est une commission spécialisée. Elle ne peut être dirigée que par maître qui est là, par les avocats qui sont là, c'est-à-dire des hommes du droit de l'homme qui ont une expérience. Et je me pose la question, je me dis, mais comment ces gens qui se sont battus pendant une très longue période pour que cette commission soit constitutionnalisée, ils ont l'occasion aujourd'hui d'en garder l'initiative en mettant en place la structure, c'est-à-dire en présentant les meilleurs d'entre eux. On a demandé 9, 18, présenter les meilleurs d'entre vous, tout en conservant l'initiative, parce qu'aujourd'hui que vous allez devant le président de l'Assemblée nationale, vous lui présentez 20 candidats, et vous lui dites, voilà, il a la possibilité d'en élaguer deux et puis de présenter. Vous donnez l'occasion, n'est-ce pas, au gouvernement, vous donnez l'occasion, à des structures qui ont qui sont de même nature que la vôtre, parce que vous êtes aussi constitutionnalisé, de prendre l'initiative. Donc, moi, aujourd'hui, madame, moi, ce qui m'inquiète, c'est cette absence de consensus stratégique qui aurait pu, en amont, exister entre les membres de la société civile qui sont des élites. Puisqu'en fait, aujourd'hui, en venant à cette émission, quelqu'un me posait la question, dit, mais est-ce que votre société civile peut conduire le peuple à des constatations comme on a vu au Burkina Faso? Je leur ai dit non, chez nous c'est impossible. Ils m'ont dit pourquoi? J'ai dit, mais écoute, ils ne s'entendent sur rien. Et je vais aller leur dire ça à la radio Okapi, que dans cette incapacité, la société civile est née sur base des déficits de l'État. C'est-à-dire l'État en tant que garant de la sécurité, en tant que garant de la justice et de l'équité. C'est dans ce déficit-là que la société est née. Elle s'est imposée. Donc elle a une grande expérience. Alors comment est-ce qu'elle arrive au niveau crucial où elle doit avoir une institution qui lui permettrait d'avoir l'initiative, d'avoir la possibilité de faire son travail calmement et de diriger des commissions? Elle n'arrive pas. Donc je me dis aujourd'hui et je m'inquiète que c'est difficile de penser qu'au Congo nous puissions arriver à des consensus. C'est vrai qu'aujourd'hui...
Ça fait plus d'une année qu'on attend cette commission et c'est la société civile qui n'arrive pas justement à s'entendre, raison pour laquelle ça traîne.
Parce qu'aujourd'hui les gens, on peut prendre une autre voie, on dit mais le président Minako va bloquer, mais cette fois-là on regarde que non, ce n'est pas l'Assemblée nationale qui bloque, c'est la société civile elle-même divisée, même pas divisée, elle n'a aucun consensus. Ils se sont battus pendant il y a eu de très longues réunions, parce que moi-même, je suis membre de la société civile, pour arriver à ces candidatures. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il est temps qu'on puisse, tout le temps au niveau de l'État, qu'au niveau de la société civile, dire que voilà, nous ne faisons pas honneur en tant que peuple. Avec les peuples qui nous entourent. Merci. Parce que nous n'arrivons pas à des consensus. Je crois qu'il faudra que nous apprenions à construire des consensus stratégiques.
Merci, professeur Emmanuel Kabongo. On vous redonne la parole tout à l'heure. Maître José Zoubi, avant de répondre à Madame Annie Bambé, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Lubumbashi au Katanga.
Jean-Paul à Lubumbashi. N'étant pas surpris de ces comportements de potentiels candidats, plusieurs gens voulaient intégrer pour avoir de l'argent et cela va impacter le travail de cette commission.
Alors la qualité n'est pas très bonne de cet auditeur, je vais reprendre sa question. Il dit ceci, ne serons pas surpris de ce comportement des potentiels candidats. Plusieurs gens veulent intégrer cette commission pour avoir de l'argent et cela va impacter justement sur le travail de la dite commission.
Je pourrais dire malheureusement, comme le professeur l'a dit tout à l'heure là, moi, quoique de nature, je suis un optimiste, j'ai jamais été pessimiste, moi. Je crois que dans chaque situation, il y a toujours moyen de s'en sortir. Et je ne crois pas que la société civile congolaise est constituée des piètres, des gens qui ne valent rien du tout. Non, je me dis qu'il y a lieu de s'en sortir. Mais il ne faut pas toujours croire que ces gens qui vont là-bas, c'est d'abord pour aller s'enrichir. Non. Je crois que, comme le professeur l'a dit tout à l'heure, il y a des gens qui ont milité pour l'installation de cette structure depuis des années. Il y a des gens qui luttent ici et parfois qui subissent des brimades.
Mais aujourd'hui, quand vous avez l'occasion d'installer cette commission,
non, madame,
vous vous battez, vous vous rentrez dedans.
C'est... Non, malheureusement, ce qui s'est passé, quoi. Le problème, c'est que parfois, on risque de sacrifier tout simplement la compétence au profit de certains intérêts personnels. Vous comprenez? Et c'est ce qui est déplorable. Mais moi, je me dis qu'il y a une solution, puisque nous allons arriver au stade des solutions. Nous pourrons en proposer quelques-unes. Mais je me dis qu'au point où nous sommes arrivés d'abord, il faut que Jean-Paul puisse continuer à faire confiance aux acteurs de la société civile. Il y a des gens qui luttent réellement dans ces pays pour que les choses changent sans arrière-pensée, sans même les rechercher le lucre. Non, il y en a qui ont parfois payé de leur vie, de leur argent, de leur temps et même consenti d'énormes sacrifices pour que les choses changent dans ces pays. Donc vous pouvez croire également que quant à ce qui concerne la mise en place de cette CNDH, il y aura des gens sûrement qui pourront être valablement installés et qui vont défendre valablement l'honneur de notre structure. Mais pour revenir...
Alors, on a suivi Mme Annie Bambé.
Non, pour revenir à ce que Mme Annie Bambé disait tout à l'heure là, je dois dire sincèrement que Mme Annie Bambé peut-être essaie de faire une petite confusion quelque part. Parce que ça m'étonne, puisque Annie Bambé, comme vous a dit tout à l'heure, c'est une dame qui nous a accompagnés depuis le début. Nous avons toujours été en contact avec elle. Elle sait très bien, et il y a certains entretiens que nous avons eus avec elle, ça ne serait même pas intéressant que je puisse étaler tout ça ici. Mais je voulais dire plutôt, le 20 décembre, la date à laquelle le président Obem Inaku nous a réussi là-bas, je vous ai parlé tout à l'heure là, de la réunion qu'il y a eu entre le président Obem Inaku avec toutes les structures de la société civile, c'était Mme Annie Ebambé qui avait posé la question clairement au président Obem. Quand le président Obem a proposé qu'on puisse mettre en place cette structure qui serait composée de représentants des composantes afin que ces gens-là aillent alors faciliter l'élection des candidats dans les composantes. C'est Mme Annie Ebambé qui a posé la question au président Obem en lui demandant qu'est-ce qui va arriver alors pour les structures qui sont déjà organisées. Et le président Obem a répondu clairement en disant non, là où les choses sont déjà bien passées, dans la transparence et dans toute démocratie, plus besoin d'avoir ces délégués-là qui vont aller siéger dans cette composante qu'on va mettre sur pied. Et cette réponse-là nous a ragaillardis, puisque nous, personnes avec handicap, nous étions déjà organisés depuis longtemps. Moi, ce qui m'offusque dans cette prise de position, dans la façon de travailler de nos amis de ces comités, qui est pourtant composé des gens qui sont compétents, c'est cette façon de chercher à occulter les voix qui ont été, les choix qui ont été faits par tous les responsables des PVH au profit de certaines négociations qui ont été menées dans des bureaux climatisés.
Elle a demandé si vous étiez en contact avec votre comité de pilotage.
Non, nous n'avons pas de comité de pilotage. Je dois vous présenter, Madame Kelly, les 10 juin, il y a une déclaration là-bas que les PVH ont même déposée au président Obem Inaku. Cette déclaration-là, nous dénoncions ces prétendues personnes qui étaient, semble-t-il, parties se présenter au nom de la composante PVH. Ces personnes-là venaient de cette petite structure, une structure comme toutes les autres également, et c'est cette structure-là qui a mandaté également ces deux personnes dont les noms figurent maintenant sur cette liste qui a été publié ici. Donc, ces mêmes personnes-là qui sont allées dans ces comités-là, en réalité, nous savons d'où ils viennent, mais ce ne sont pas des gens qui ont été réellement envoyés par toute la composante. Non, une petite structure ne peut pas engager toutes les PVH de la RDC.
Merci, maître José Zoubi, madame Annie. On va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu, dans la province du Sud-Kivu.
Franklin Matumaini, depuis la ville de Bukavu, dans la province du Sud-Kivu. Le grand problème pour la société civile congolaise, c'est d'abord son caractère pluriel, ce qui crée une confusion à tel point qu'elle se demande à quelle société civile s'adresser. À côté de cet épineux problème qu'ajoute la politisation de la majorité des organisations et animateurs de la société civile, car certaines organisations sont créées et sponsorisées par les acteurs et camps politiques, ainsi nous trouvons des sociétés civiles pour la majorité, qu'elles prennent opposition. Dans ce contexte, aucun cap ne peut vraiment pas accepter les choix de l'autre parce qu'ils se connaissent très bien.
Madame Anne, comment vous répondez à cet auditeur?
Oui, merci beaucoup, Madame Kelly. Je voudrais préciser à ce niveau de débat que pour la mise en place de la Commission nationale des droits de l'homme, nous n'avons pas connu la difficulté qui a toujours animé la société civile de son caractère pluriel. Ici, ce sont les organisations des droits de l'homme qui se sont impliquées. Il n'y a pas eu de tendance, vous êtes de telle société civile, vous êtes de telle autre société civile. Je voudrais vraiment préciser cela, qu'ici on parlait en tant que défenseur de droits de l'homme, en tant qu'organisation de droits de l'homme. Donc ce problème-là ne s'est pas posé. Ou soit que tel est de la majorité et tel est de l'opposition, pas du tout. Donc les acteurs qui œuvrent dans le droit de l'homme, nous nous connaissons. Et c'est comme ça que nous avons œuvré, même 2 ans avant que la loi ne soit promulguée, parce que le comité d'accompagnement dont nous parlons, du Centre Carter, c'est un comité qui a milité pour la loi, qui l'a presque initiée et l'a fait endosser par des parlementaires et qui suit le processus depuis un temps. Mais je voudrais aussi revenir par rapport au professeur Kabongo, que je salue.
Bonjour.
Par rapport au blocage, je l'ai entendu dire, moi que j'ai mal entendu, je l'ai entendu dire que la société civile bloque les choses. Non, pas du tout, professeur. Pour le moment, la société civile, le volet droit de l'homme a prouvé sa maturité.
Mais ça fait plus d'une année, Madame Annie, ça fait plus d'une année qu'on attend cette commission.
Non, ça ne dépend pas de la société civile. Je vous dis que la société civile était organisée déjà dans le comité d'accompagnement. C'est seulement le 20 décembre 2013 que l'Assemblée nationale s'est impliquée. Donc, je vous ai dit que la responsabilité de la désignation est partagée. La société civile était déjà organisée et la part de l'Assemblée nationale est arrivée qu'au 20 décembre 2013. Et jusqu'à ce jour, c'était le 30 octobre, nous avions eu une rencontre avec le président de l'Assemblée nationale qui a accepté la liste des 20 candidatures au lieu des 18 que recommande la loi. C'est pour vous dire que la société civile a mis de l'eau dans son vin, dans son volet droit de l'homme et a laissé maintenant le travail à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire c'est à partir du 30 octobre que maintenant on peut commencer à compter pour dire si la commission va être mise en place ou pas. Le travail de la société civile est bouclé. Ces 8 thématiques se sont organisées et ont déposé pour chacun, selon que la loi leur recommande, ces candidatures en dehors de 2 thématiques. Les organisations des droits de l'homme qui devaient au départ déposer 2 candidatures, mais ils en ont déposé 3. Parce que vous savez que les organisations des droits de l'homme, ils avaient au départ 9 candidatures, mais avec toutes les concertations, nous sommes arrivés à 3 candidatures. Et pour pour les universitaires, au lieu de déposer 2 candidatures, ils en ont déposé aussi 2. C'est comme ça que vous entendez.
Madame Annie, s'il vous plaît. Alors, Madame Annie, s'il vous plaît, vous dites que la société civile a bouclé son travail. Vous avez déposé la liste de vos 20 candidats au bureau de l'Assemblée nationale. Malgré toutes les contestations qu'il y a par rapport au nom que vous avez déposé, mais pour ceux qui se sentent frustrés ou lésés, comment faire pour décanter la situation?
C'est-à-dire que la Commission nationale des droits de l'homme ne se limite pas seulement aux neuf commissaires. Le champ de la Commission nationale des droits de l'homme est vaste. Moi-même qui vous parle, je ne suis pas candidate. Est vaste. Il y aura des institutions au niveau des provinces, il y aura des antennes au niveau de territoires et consorts, il y aura des commissions. Donc tout le monde qui était dans le processus, je crois, il va se retrouver s'il veut diriger la Commission nationale des droits de l'homme. Vous savez, c'est un combat, c'est une lutte. Vous avez une multitude de candidatures, c'est comme les ONG des droits de l'homme. Il y avait 9 candidatures. Et on arrive à trouver 3. Mais les 6 autres ne sont pas contents.
Merci, Madame Annie. On vous redonne la parole tout à l'heure. Professeur Emmanuel Kabongo, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Kananga, dans la province du Kassai-Occidental.
Maître Adrien Ilobapwe Ipero à Kananga, au Kassai-Occidental. La situation qui règne au sein de la société civile congolaise pour le choix de leurs membres dans la Commission des droits de l'homme, non seulement elle était prévisible, mais aussi elle est la conséquence de la politisation de celle-ci, car au moment actuel, chaque politicien veut à tout prix voir son représentant dans la dite commission pour continuer à bien manipuler la commission.
Réaction, professeur.
Merci. Je pense que Adrien a peut-être raison, mais je crois que c'est un raccourci. En fait, le problème de la société congolaise n'est pas d'une forte politisation. En fait, quand on parle d'une société fortement politisée, ça signifie que c'est une société où les hommes, les femmes et les enfants comprennent tout l'agir politique. Ce qui n'est pas le cas au Congo. En fait, le problème du Congo, c'est un problème d'identité collective. C'est-à-dire que les Congolais partagent très peu de choses ensemble. Quand vous retrouvez 20 Congolais dans un débat, c'est comme s'il y avait 20 points de vue tout à fait différents, points de vue tout à fait opposés, comme s'ils ne vivaient pas sur un même sol qu'on appelle le Congo, comme s'ils n'habitaient pas sur un même sol qu'on appelle toujours le Congo. Et on a l'impression que nous avons été très fortement détruits. Et je crois que même quand on parle de la politisation, ça signifie que même au niveau politique, qui voit que dans ces pays, il y a une concession au niveau politique. Donc je pense qu'il y a lieu aujourd'hui que les Congolais puissent rentrer en eux-mêmes et retrouver ce qu'on appelle les forces intérieures qui fondent un peuple, à savoir l'histoire. Nous avons lié dans ces pays des hommes, de Lumumba, de Kasavubu, de Mobutu, des gens qui ont dirigé ces pays, qui ont montré quand même qu'à un moment donné, on peut dans ces pays avoir un leadership humaniste, diriger ces pays pour les besoins de la communauté, pour l'intérêt général, parce qu'au moment où vous ne vous entendez pas, vous n'êtes pas capable de construire l'intérêt général.
Et donc, quelle est la solution, professeur?
La solution, c'est, elle n'est pas, je n'ai pas vraiment une solution dans ma poche, mais comme dans tous les pays qui connaissent un problème de déstructuration de l'être humain, il recourt toujours à l'histoire. C'est-à-dire l'histoire, c'est-à-dire notre parcours en commun. Comment ces pays, nous l'avons construit? Puis il ne nous a pas été donné comme ça. Il a été gardé par des gardiens. Les gens se sont battus depuis l'origine, depuis le 14e siècle avec la traite négrière, avec la colonisation. On s'est toujours battu pour être ensemble. Pourquoi aujourd'hui que nous sommes ensemble, que nous avons la possibilité de faire un État avec un intérêt général qui articulé autour de l'intérêt général, articulé autour du bonheur de notre peuple, nous n'arrivons pas à nous entendre, même au niveau du budget national, même au niveau de ceci. Donc je crois qu'aujourd'hui, il est temps que nous puissions laisser par terre toutes les petites histoires d'intérêt privé, parce que il n'y a pas de sécurité privée dans un pays. La sécurité est toujours commune. Si tu vis à côté d'un ami où ses enfants ne vont pas à l'école, où ses enfants tu ne manges pas, tu n'es pas en sécurité. Je crois que, Adrien, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je pense à mon avis que la seule façon aujourd'hui pour sauver ces pays, nous devons d'abord rentrer en nous-mêmes, nous interroger sur l'histoire commune. Comment est-ce que avons-nous le sentiment d'appartenir à une communauté de destin? Avons-nous le sentiment de dire que nous, le Congo nous appartient, nous devons en faire quelque chose de valable? Donc c'est à partir de là que, à partir de ce genre de questions, que les hommes peuvent construire cette nation, oublier des petits intérêts privés, parce qu'en fait, les hommes ne deviennent pas grands parce qu'ils ont beaucoup d'argent.
Mais ceux qui se sont vus remplacés par d'autres candidats, qu'est-ce qu'ils doivent faire, professeur?
Madame,
ils doivent accepter la situation telle qu'elle.
Stratégiquement parlant, tous les hommes, maître est là, je connais le maître Mouila, je connais le Bangefa, le Tchebeya, tout le monde, le Bwanakabwe. La société civile congolaise a une très grande histoire. Elle a commencé très tôt, elle s'est beaucoup dépensée pour que dans ces pays, les droits qui nous étaient pas reconnus, nous soient reconnus. Les gens se sont battus, les gens sont morts. Je crois qu'elle a une grande historicité. Elle connaît elle-même son histoire, elle connaît ses meilleurs, elle connaît ses méandres. Donc je pense que les gens, comme je disais tout à l'heure, maître, il a dit, le champ est vaste. Il y a les commissaires, il y aura dans des provinces. Les gens stratégiquement trouvent toujours un consensus pour te dire, vous prenez ça, nous prenons ça, parce qu'il faut éviter justement que la classe politique, que la majorité ou l'opposition entre dedans pour amoindrir votre impact.
Merci professeur, maître José Zoubi, coordonnateur de la plateforme Festival Verso du handicap et membre de l'ONGDH Parousia qui s'occupe des personnes vivant avec handicap. Quelles sont vos solutions?
Merci madame Kelly. Moi, je ne considère pas que accéder à la CNDH, c'est un gâteau que nous devons nous partager. Non, nullement. Hein? On ne va pas là-bas pour assouvir ses passions personnelles, ses intérêts personnels. Non, Kelly. Je crois plutôt que pour que cette CNDH puisse être crédible, puisque là aussi, c'est ça que je voudrais plutôt faire comprendre à nos amis qui, semble-t-il, ont constitué ce qu'ils appellent la comité d'accompagnement, ils doivent savoir que c'est la crédibilité de cette structure qui est mise en jeu. Cette crédibilité, tant au niveau national qu'au niveau international. Il ne faudra pas oublier que cette CNDH devra également être endossée par les comités de droits de l'homme qui siègent à Genève. Mais si déjà à partir de maintenant, vous y mettez des gens qui n'ont pas été élus par leur base, si maintenant même l'Assemblée nationale, qui doit normalement garantir tout ce qui est prescrit par la loi, puisque cette loi a été votée par les parlements. Il faut que les gens qui vont siéger dans ces dans cette structure puissent être réellement l'émanation de la base. Mais si vous y envoyez des gens qui ont été tout simplement recommandés maintenant, comme si on va recommander les enfants à l'école, Kelly, je me demande maintenant, qu'est-ce que cette CNDH va représenter tant au niveau national qu'international? Moi, je souscris en faux tout ce qui concerne les partages des gâteaux. Nous n'allons pas là-bas pour chercher, pour dire non, puisque je n'ai pas été retenu au niveau national, comme d'autres, c'est même petit poste au niveau provincial ou au niveau territorial. Non, ce n'est pas ça mon souci, puisque la lutte pour les droits de l'homme, Kelly, c'est notre combat de tous les jours. Nous menons ça déjà à tous les niveaux.
C'est votre combat de tous les jours. Oui. Le champ est vaste, comme l'a dit Mme Annie. Il y a plusieurs autres postes à pourvoir.
Non, mais pour quelles raisons on doit commencer à bafouer les choix faits par une base au profit d'une recommandation d'un individu. De quel droit?
Alors comment on déconseille la situation?
Et puis en plus, Kelly, tu sais déjà, moi il y a quelque chose, hein, et là je voulais également attirer l'attention de madame, de nos amis qui siègent à ce comité-là. Déjà, la loi même, hein, la loi, tout à l'heure la Véry Franklin a rappelé à l'article 16, la loi dit chaque composante doit envoyer déjà, par exemple, les personnes avec handicap, deux personnes en respectant les genres. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des composantes sur la liste qu'on a publiée dernièrement qui ont envoyé des gens des mêmes sexes? Ça, c'est déjà, on commence à violer même la loi avant qu'elle soit.
Alors, vous ne donnez pas les solutions, ça se trouve sur votre conclusion pour décoter la situation.
Moi, ce que je proposerais, qu'on cesse d'induire le président Aubin en erreur, que le président Aubin, Minaku, avec tout son bureau, sont les gens sages, qu'ils invitent tous ces contestations, tous ceux qui ont fait remarquer que le comité là cherche à l'induire en erreur et qu'on les écoute, puisque nous avons des preuves à présenter, puisque nous avons également des preuves, ces gens-là ont été élus et on ne peut pas occulter, on ne peut pas bafouer les choix de la base au profit des intérêts personnels.
Merci maître José Zoubi. Madame Annie Bambé, vous allez devoir aussi conclure. Maître José propose une rencontre.
Je voudrais rappeler encore une fois que les candidatures qui sont déposées au niveau de l'Assemblée nationale ont été choisies par les groupes thématiques, les 8 groupes thématiques. Et ce n'est pas l'Assemblée nationale qui a désigné. C'est à cette étape que l'Assemblée nationale va maintenant désigner parmi les 20, en désigner 9. En respectant le quota de chaque thématique. Un pour les 7 autres thématiques et 2 pour les confessions religieuses. Je pense que le problème que pose l'invité aujourd'hui, c'est un problème qui aurait dû être posé dans sa thématique il y a longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui au résultat. Il aurait dû cheminer avec sa thématique parce que sa thématique a toujours siégé. Nous, quand nous sommes dans l'interthématique avec le leadership de Monseigneur Milenge, je vois les 3 membres de sa thématique.
Merci.
Même son cas est posé à la thématique.
Merci,
et on
madame.
Lui donne des réponses.
Merci madame Annie, je suis obligée de vous interrompre. On n'a plus beaucoup de temps, professeur Emmanuel. Un mot en guise de conclusion. Oui. Décidément, c'est difficile de mettre les gens d'accord.
Non, non, les Congolais doivent grandir. Tant au niveau politique, au niveau de la société civile, nous devenons un peuple quand nous sommes capables d'adopter des grands consensus en ne pensant qu'au bonheur de notre peuple, en ne pensant qu'au développement de notre peuple qui souffre beaucoup, qui a besoin d'une véritable commission des droits de l'homme dirigée par des gens comme vous. Vous êtes des gens très capables, très compétents, mais mettez vos ambitions privées dans la poche et voyez l'avenir de ces pays, l'avenir de ces peuples
merci,
qui a besoin d'une grande commission.
Merci Emmanuel Kabongo, merci. C'est la fin de cette émission. Merci Alain Irung, Berry Franklin Luchaka sous la supervision de Julien Niamoni qui m'ont aidé à vous préparer cette émission. Mimi Kine était à la mise en onde au micro que l'écoute. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radiocapi.net. Bonne suite de programmes sur la fréquence de la paix.